France Culture.
Bonjour le Book Club. Chaque matin en partant au travail, et ceci depuis des années, je vois ces exilés vivant dans des tentes aux abords du périphérique, complètement invisibilisés et pourtant vivant sous nos yeux, sans que l'on sache rien d'eux. Et ce qui m'a agréablement interpellé, c'est qu'avec votre livre, vous les faites rentrer dans le grand panthéon qu'est la littérature.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Littérature, terre d'exil, cette semaine dans le Book Club, deuxième temps de notre série qui fait se croiser deux romans tout juste parus dont les personnages ont quitté qui la Côte d'Ivoire, la Guinée ou encore la Tunisie pour le pays des droits de l'homme qui ne tient pas tout à fait ses promesses. Les choix de narration et de ton diffèrent, mais l'exil y apparaît comme une condition du contemporain. Des tentes, les camps précaires, les solutions d'hébergement d'urgence, les solidarités, les communautés, mais aussi les dédales administratifs ou les douleurs psychiatriques apparaissent, elles, comme un réel auquel on se serait habitué. Les deux romanciers Zied Bakir et Amadou Barry sont les invités de votre Book Club aujourd'hui. Vers 15h50, nous retrouvons la journaliste Nicole Vulser. Elle éclaire pour nous les aspects économiques du monde des livres et on peut dire que les romances, ça se vend bien. Nicole nous parle de cet engouement sans fin. Et bien entendu, à la fin, on cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Zied Bakir.
Bonjour Marie-Richeux.
Votre roman s'appelle La Naturalisation, il a paru aux éditions Grasset. Soyez le bienvenu dans le Book Club de France Culture.
Merci beaucoup.
Bonjour Amadou Barry.
Bonjour.
Votre roman s'appelle Journal d'un exilé, il a paru lui aux éditions Julliard. Bienvenue à vous aussi.
Merci.
Dans le Book Club de France Culture, je dis que vous serez en rencontre Amadou Barry avec Tania Tervonen, qui est aussi une de nos invitées cette semaine. C'est pendant le festival Effraction, ce sera le 15 février, ce sera à la bibliothèque publique du Centre Pompidou à Paris. Ici, le Book Club commence toujours par faire le portrait de nos invités en tant que lectrices et en tant que lecteurs. Et il se trouve que tous les deux, dans votre roman, la place des livres est importante, la place de la lecture est importante. Vous choisissez même des portraits de personnes qui aiment beaucoup les livres. Par exemple, Zied Bakir, vous imaginez une tante bourrée de livres qui sont aimés mais qui ne sont pas très très bien traités, qui traîne dans l'humidité. On peut trouver Narcisse et Goldmund, on peut trouver La mort de Virgile, on peut trouver Les aventures d'un pique-assiette, on peut trouver Le maître et Marguerite. Est-ce que cette tente-là que vous imaginez pour votre roman, c'est une forme de bibliothèque idéale pour vous? Est-ce que, écrivant cette scène, vous écrivez aussi un autoportrait de lecteur?
Alors, bibliothèque idéale, pourquoi pas, puisque les titres que vous venez de citer sont des chefs-d'œuvre, hein. Mais malheureusement, la tente existe ou a existé pour de vrai. Et elle est au bois de Boulogne. Donc, vous savez, quand je suis arrivé à Paris, quelque chose m'a marqué, c'est que je voyais des SDF entourés de livres, qui les vendaient ou qui les lisaient. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça m'a rapproché aussi des SDF, je dois dire.
Parce que vous aviez un rapport très fort avec les livres?
Oui, moi, je suis venu en France pour les livres, hein. Pour résumer, et donc oui,
c'est-à-dire quoi venir en France pour les livres?
Comme vous commencez, c'est le pays de la littérature, etc. Donc voilà. Et puis moi, j'avais quelques ambitions, quelques velléités littéraires, comme on dit. Et donc j'étais en France, à Paris. On est au bon endroit. C'est une bibliothèque à ciel ouvert, Paris. Je me souviens le premier jour, je découvre un carton plein de livres sur le trottoir. Je l'ai ramené chez moi, là où je vivais. Et j'avais ma bibliothèque. Le premier jour à Paris, j'ai ma bibliothèque. J'avais jamais eu de bibliothèque avant.
Grâce à ce carton.
Sur le trottoir, abandonné. Voilà.
Vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans ce carton?
Je pense qu'il y avait beaucoup de livres, des vieux livres, vous savez, avec des feuilles jaunies. Je me souviens d'un livre d'André Mauroy. Je crois que c'était une biographie de Victor Hugo, peut-être. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Vous aviez grandi dans un endroit où il y avait des livres ou il n'y avait pas de livres?
Non, pas du tout. Il n'y avait pas de livres du tout, non.
Et vous en trouviez dans l'enfance quelque part des livres pour assouvir ce goût-là ou cette curiosité?
Oui, bien sûr. Il y avait une petite bibliothèque dans mon petit village. Donc il y avait quelques livres, bien sûr. Et puis par la suite, avec mes études, donc, j'ai eu accès aux livres, hein, notamment par l'Institut français. Donc c'était à Sfax. Et puis il y avait tous les livres. Il y avait pas mal de livres quand même. Oui, ça a commencé comme ça.
Qu'est-ce qui vous avait prédisposé à être curieux des livres et à vouloir lire Zied Bakir, puisque vous dites que vous n'avez pas grandi dans un endroit où il y en avait des livres?
C'est peut-être ça, la curiosité, d'aller vers un monde qui n'est pas le vôtre, hein, où vous n'avez pas grandi. Il y a aussi ça. Et un désir de découverte, d'ailleurs. Mais j'ai commencé à lire en arabe, bien sûr. Et le premier livre que j'avais lu, c'était Les aventures de Sindbad le marin, en arabe. Et puis ça a commencé comme ça. Ça m'avait marqué.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre-là ?
C'était un livre pour les enfants et pour les adultes aussi. C'est un livre incroyable d'aventure. C'est le personnage de Sindbad m'a marqué. C'est devenu mon héros. Cet homme qui a soif d'aventure et qui ne peut s'empêcher d'aller vers l'aventure, même s'il se met dans des situations très très dangereuses. Hein. Je veux dire, rencontre des cannibales, etc. Et donc il s'en sort et rentre chez lui. Il se dit plus jamais. Je ne me mettrai plus jamais dans des situations comme ça. Je vais rester tranquille chez moi. Et il ne peut pas. Il s'ennuie et il revient à l'aventure. Et je trouvais ça formidable. Ça résume un peu la vie, ou alors une vie que je voulais.
Et que vous avez eue ?
Pour l'instant, on va dire, je l'ai peut-être frôlé, oui. J'ai eu quelques aventures, oui, bien sûr, qui incitent à rester chez soi tranquillement, n'est-ce pas ? Mais bon, on finit toujours par s'ennuyer, et puis voilà, quoi, et on repart.
Avant d'avoir accès au livre, vous imaginiez qu'il y avait quoi dedans ? Puisque vous dites, je m'imaginais un monde qui n'était pas le monde dans lequel je vivais, moi.
Le monde des livres, ben oui, le monde de la fiction, des histoires, bien sûr. C'est un monde infini d'abord, hein, donc insaisissable. Et puis, quand on y goûte et qu'on aime ça, ben on en veut toujours plus, toujours plus. Et puis voilà, c'est l'affaire d'une vie, quoi.
Et vous êtes devenu un grand lecteur ?
Je pense que je lis plus que la moyenne, forcément. Mais vous savez, on se sous-estime souvent en tant que lecteur. Je lis tous les jours, mais je ne me considère pas comme un grand lecteur.
Ah bon ?
J'ai toujours l'impression.
Lire tous les jours, c'est quand même être un grand lecteur.
Oui, quelques pages. C'est comme manger et boire. Mais on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui lisent plus que vous, je ne sais pas.
Mais il y a toujours des gens qui lisent plus que nous.
C'est ça, voilà.
Bien sûr.
Et donc, on a envie d'être le meilleur lecteur. Mais oui.
Dans votre livre aussi, Amadou Barry, la place des livres est très importante. Il y a aussi des personnages comme ça à chaque fois dans ces parcours d'exil, de départ, de déracinement. À chaque fois, vos personnages rencontrent des gens qui lisent. Est-ce que ça raconte aussi votre propre rapport au livre ?
Oui, oui. C'est venu comme ça, parler de ces personnages qui ont un lien avec la littérature, qui n'ont pas forcément accès à la littérature. Parce que quand on prend le personnage et le narrateur, Dramé, il dit clairement qu'il n'est pas un lecteur, mais il est fasciné par la lecture, le livre et tout ce qui tourne autour. Donc, quand on prend Faudier, et lui, c'est déjà, il donne une place centrale à la littérature dans sa vie et sa conception de la vie. Donc, c'est vrai, ça renvoie à quelque chose que j'ai sans doute vécu ou que j'ai nourri dans mon enfance et au fil du temps.
Mais vous diriez que vous étiez plutôt du côté du personnage de Dramé, c'est-à-dire celui qui aspire, qui est curieux du monde des livres, ou de celui de Faudier qui a ce qu'il appelle lui-même le capital culturel, le savoir, les ressources.
Alors, je me range tout de suite du côté de Dramé. Parce que... D'où je viens dans mon pays, la Guinée, en fait, je dirais sans hésiter que nous avons quelque chose que je nommerais la littérature orale. Donc, en fait, on croise des poètes dans la rue, dans les cérémonies, tout ça. Quand on les entend parler, ils ont l'art de la parole, ils maîtrisent la parole, ils ont cet art, mais il n'y a pas assez d'écrits. La plupart de nos écrivains, c'est des écrivains qui ont écrit ailleurs. Ils se sont exilés. C'est lié au parcours politique que notre pays a connu et les régimes et tout qui ont persécuté les intellectuels. Mais c'est encore aujourd'hui le cas. On n'a pas vraiment des maisons d'édition qui ont émergé, des bibliothèques un peu partout et surtout des porteurs de livres. Parce que c'est ça la difficulté.
Qu'est-ce que vous appelez les porteurs de livres, Amadou Barry ?
C'est tout cet univers qui tourne autour du livre. C'est les libraires, c'est l'éditeur, c'est les écrivains et c'est des endroits où on peut écouter les écrivains parler de leurs ouvrages, les festivals. C'est fondamental pour que, disons, un livre ou la culture de la lecture, de la littérature puisse exister dans un endroit. Et nous, ça fait défaut parce que les régimes qui se sont succédés dans mon pays, et c'est valable pour la plupart des pays africains, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est qu'on se sont toujours méfiés des intellectuels qui des écrivains, ils les ont vus, et parce que ces écrivains étaient obligés d'aborder des questions sociales et surtout la gestion du pays. Donc ça a été tout le temps, et cette méfiance a existé. Donc nous, le livre, on sait qu'il est fondamental. Quand on est enfant, moi en tout cas, je l'ai conçu comme ça.
Comment est-ce que vous saviez que c'était fondamental le livre quand vous étiez enfant ?
Je parlerai d'un livre qui m'a emporté. Je ne sais plus à quel âge, mais j'étais très jeune. C'est un essai, mais un essai romancé, une autobiographie sous forme d'un essai. Le titre, c'est 10 ans dans les geôles de Sékou Touré. C'est quelque chose comme ça, le titre. Un ancien ministre sous le premier régime guinéen de Sékou Touré, qui parle de son emprisonnement en prison. Il s'appelle Abdoulaye Diallo. Et dans ce bouquin, il donne tous les détails sur, disons, la façon dont il a été arrêté, le traitement qu'il a subi dans cette prison qu'on appelle Kambouaro, la torture et tout. Et il se trouve que j'ai lu cet ouvrage. Je dirais autour de 7-8 ans, j'ai lu cet ouvrage dans un endroit où j'étais, dans une usine désaffectée, tout près de chez moi. On part très souvent dans cet endroit, on appelle cet endroit la conserverie. C'était une conserverie, une usine de...
Mais c'était comme un abri pour vous, pour lire ce texte ?
Effectivement, parce que c'est un endroit très isolé, c'est des bâtiments à ruines et tout, mais très calme. Donc on y allait très souvent pour réviser nos cours et tout, nous isoler, lire des livres ou nos leçons et tout, pour préparer les examens. Et il se trouve que ce livre, un ami me l'a passé. Et il l'a pris, disons, entre les mains de son frère. Je prends cet ouvrage, je me mets quelque part, dans cette usine désaffectée, et je rentre dans le bouquin. Mais c'était tellement puissant, j'ai cru voir tout ce que cet homme a décrit dans cet ouvrage. Mais c'était en même temps violent, vrai, et le tout ensemble. Je pense que c'est ma meilleure expérience de lecture et c'est en quelque sorte, ça m'a bousculé, traumatisé pendant quelques temps. Mais c'est à partir de là que je me suis dit, il y a quelque chose de très puissant dans l'écriture et la lecture en même temps.
Mais alors la différence qu'on ferait entre ce que vous avez décrit, Amadou Barry, de l'importance de la littérature orale, des cérémonies, des moments de, je sais pas, croiser des poètes dans la rue, je reprends vos mots, des conversations où il y a quelque chose de puissant qui s'exprime, un imaginaire très fort qui s'exprime, et la lecture, vous, tout seul, ado, dans la conserverie, dans cette usine désaffectée, c'est quoi ? C'est juste que d'un seul coup, vous êtes capable de vivre cette expérience-là, seul et dans le silence ?
Tout à fait, oui. Je pense que c'est effectivement ça. Parce que c'est des éléments qui se raccordent. Mais encore une fois, il n'y a pas quelqu'un pour nous guider, pour qu'on puisse le découvrir plus facilement. Et là, moi, j'ai vécu cette découverte tout seul. Et à cette époque, je ne pouvais pas poser des mots ni, analyser ce qui m'arrivait. Mais c'est vraiment, tout est lié. Parce que par après, quand j'ai lu Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, j'ai retrouvé la même verve et cette réalité et cette profondeur. Ça a été le cas aussi quand j'ai pu découvrir les ouvrages de Thierno Monenembo. C'est un peu ça.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, on y viendra tout à l'heure, Journal d'un exilé, vous faites aussi appel à des histoires ou à des grands textes religieux ou à des histoires traditionnelles. C'est tissé, c'est-à-dire qu'il y a des histoires du présent qui sont aussi tissées d'histoires du passé et à la littérature, à la grande littérature, on pourrait dire. C'est comme si, finalement, dans un seul livre, vous pouviez mélanger vos différentes vies de lecteur.
Oui, tout à fait. Et c'est... Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que à partir de là, ça renvoie à la vie, à la chose la plus concrète qui nous est accessible en fait. La chose la plus accessible possible à mon avis, c'est cette possibilité de passer de cette réalité qui est parfois difficile à cerner et des choses ordinaires qu'on a la possibilité de se demander, mais comment l'expliquer? Donc, tout part de là. Ce qui peut ressembler à une confusion, à mon avis, si on met tout ça en commun, ça donne quelque chose
des échos.
Des échos, oui, tout à fait. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est pourquoi j'ai essayé de mélanger tout ça et laisser au lecteur la possibilité d'apprécier.
Et vous êtes devenu un grand lecteur? Après cette première expérience dans la conserverie?
Alors, moi, je suis plutôt un lecteur heureux. C'est-à-dire un lecteur
qui... C'est bien d'entendre ça.
Je suis un lecteur heureux, qui n'est pas très assidu, mais qui, une fois qu'il découvre un ouvrage qu'il aime, ne peut plus le lâcher. Et j'en suis à ce niveau parce que, tout simplement, j'oublie énormément. C'est pourquoi les ouvrages de Dostoïevski me passionnent. Parce que chaque fois que j'essaie et j'ouvre les ouvrages de Dostoïevski, j'ai l'impression de lire pour la première fois. C'est valable pour L'étranger de Camus. Je peux le relire maintes fois, et disons, dans le mois, quand l'envie me vient. Et Dostoïevski, pour parler de lui par exemple, j'oublie pratiquement, même le fil de l'histoire, ça peut m'échapper. Et c'est pourquoi je me considère comme étant un lecteur heureux. Parce que j'oublie beaucoup et chaque fois que je m'y plonge, j'ai l'impression de découvrir pour la première fois l'ouvrage en question.
Vous citez tous les deux Arthur Rimbaud, mais en exergue de votre roman à vous, Ziyad Bakir, vous citez Eri De Luca. On va l'écouter ici dans une archive.
C'est un effet secondaire de la lecture régulière. Un effet secondaire, c'est le fait de devenir citoyen des propriétaires de la langue. Et pas un client de la langue. Et donc, quelqu'un qui lit beaucoup est quelqu'un qui se défend mieux. Son système immunitaire réagit mieux aux versions officielles, aux mensonges d'État, aux fausses versions de la réalité.
Je vous vois approuver Ziyad Bakir. On entend ici Eri De Luca dans la masterclass en 2022 au micro d'Olivia Gesbert. Finalement, lire, c'est améliorer son système immunitaire, c'est plus en mesure de se défendre. Est-ce que vous diriez ça pour vous et pour vos personnages?
Eh bien, écoutez, je pense, oui, absolument, bien sûr. Oui. Non seulement pour se défendre, mais pour vivre, tout simplement. Oui. Mais Eri De Luca, je tiens à dire que c'est l'un de mes écrivains préférés, donc c'est pour ça que je l'ai mis en exergue. Et puis voilà, il est tout simplement génial.
Ouais. Pourquoi est-ce que ça aide à vivre? Pourquoi est-ce que ça aide à se défendre, d'après vous?
Alors, ça peut aider n'importe qui à vivre de manière générale, mais quand on a investi sa vie dans la lecture et un peu dans l'écriture, ça devient un mode de vie. Ça devient une façon de vivre, ça devient la vie, en fait, tout simplement. Donc,
il dit aussi que c'est l'idée d'être propriétaire de la langue qu'on utilise, de ne pas être client et aussi de pouvoir défaire un discours politique, éventuellement un discours de domination. D'une certaine manière, il l'en fait, et un petit peu plus loin dans cette masterclass, il dit qu'il en fait un outil d'émancipation.
Tout à fait, absolument.
Et on sait tous les engagements différents de lutte d'Eri De Luca.
Tout à fait.
C'est aussi à cet endroit-là que vous placez les mots, la lecture, l'écriture?
Absolument, oui, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que, en tant qu'immigré, si vous voulez, vivant en France, j'écris entre autres pour me sentir chez moi. Donc oui, s'approprier la langue, parce qu'on vit dans la langue d'abord. Mmh. Vivre dans un pays, c'est vivre dans sa langue. Et si on s'approprie cette langue, si on la maîtrise plus ou moins, on est chez soi, terminé. Mmh. Vous voyez? C'est personnellement, j'écris aussi pour ça. Oui.
Oui, d'ailleurs, vous faites dire à un de vos personnages, c'est ma langue, c'est mon arme. C'est vraiment une possibilité de combattre avec elle, pas peut-être pacifiquement, mais donc de combattre avec elle.
Mais pacifiquement, évidemment, bien sûr. C'est l'arme la plus efficace et la plus pacifique. Mais c'est logique, l'arme la plus efficace, elle est la plus pacifique. Donc voilà.
On vous entendait aussi écouter Amadou Barry sur la question de la permanence de la littérature orale, des histoires autour et avec lesquelles il aurait grandi. Est-ce que ce fut votre cas à vous? Et est-ce que vous faites une hiérarchie entre tout ce à quoi vous avez accès par les livres et finalement toute l'immensité à quoi vous avez accès par les histoires?
Alors oui, nous venons du même continent, donc c'est le continent de l'oralité, n'est-ce pas, de la culture orale. L'écriture, c'est quelque chose de plutôt nouveau hein, pour nous. C'est un peu comme si on entrait dans une nouvelle ère, hein, nouvelle histoire. Mais
il y a quand même quelques autrices et quelques auteurs.
Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais pas comme en Occident. Hein, je veux dire, c'est pas la même tradition de l'écrit. Mais après, je ne sais toujours pas si la culture écrite est mieux entre guillemets que la culture orale. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Mais on va dire qu'il y a une continuité entre les deux, puisqu'il y a beaucoup d'histoires qui sont parvenues en Occident grâce à des écrivains africains qui les ont puisées dans leur culture orale. Donc tout ça, c'est de la continuité. Mmh. Mais oui, bien sûr, personnellement, oui. La culture, il y a une culture orale. Par exemple, Les Mille et Une Nuits, c'était dans notre culture orale, donc c'était des histoires qu'on se racontait comme ça. Et puis les légendes et les contes, évidemment, ça, c'est pas ça qui manque.
On va parler de vos deux livres à tous les deux, juste après cette chanson de l'artiste d'origine tunisienne Emel Matlouti, sortie sur son dernier album en 2024. Elle y chante ici en anglais, un profond désir de départ. Elle s'adresse à une figure de père. Aide-moi à réfléchir, père, père, le monde que tu as dessiné pour moi a déraillé. Je vais partir, je vais partir.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux romans, deux voix de narrateurs vous parlent dans le Book Club aujourd'hui. Ils n'ont plus l'intention de se taire. Pour le deuxième épisode de notre série Littérature Terre d'Exil, nous faisons se croiser ces deux livres qui choisissent pour protagonistes des personnes exilées. Parce qu'ils parlent eux-mêmes ou parce qu'un ami s'engage à dire leur histoire, leur vie sort du nombre et de l'anonymat pour être d'un coup singulière, drôle, héroïque, originale ou émouvante, pour être simplement des vies dignes qui valent la peine d'être dites et d'entrer dans la fiction. Écrire pour se débarrasser de soi, écrire pour faire perdurer la mémoire et l'amitié fidèle. En fait, il est autant question d'exil que de littérature dans ces deux romans. J'en rappelle les titres. Ziad Bakir, votre roman s'appelle La Naturalisation. Il a paru aux éditions Grasset. Et Amadou Barry, votre roman s'appelle Journal d'un exilé. Il a paru aux éditions Julliard. On va écouter une question tout de suite de notre auditeur qui s'appelle Afid et qui vous a lu tous les deux, mais qui vous adresse une question à vous, Amadou Barry. Je pense que la question peut résonner pour les deux romans qui nous concernent aujourd'hui. Il est question de parler au nom de qui, au nom de quoi.
Bonjour le Book Club, bonjour Amadou Barry. C'est un réel plaisir de vous retrouver par ici. Votre livre commence fort. D'emblée, votre personnage dramé annonce la couleur. Il dit qu'il va parler et qu'il va tout dire et qu'il ne va laisser personne parler à sa place et encore moins en son nom. Chaque matin, en partant au travail, et ceci depuis des années, je vois ces exilés vivant dans des tentes aux abords du périphérique, sans que l'on sache rien d'eux. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment vous est-il venu l'idée d'écrire en leur nom ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Afid, pour ce témoignage de lecture et pour cette question, Amadou Barry.
Alors, je dirais que c'est en les observant, en essayant de savoir réellement comment est-ce que pratiquement tout le monde peut accepter cette triste réalité. Donc, je me suis dit... les voir et en parler, je ne sais pas qui ce soit, parce que c'est le moyen le plus utilisé aujourd'hui, les réseaux sociaux autour de soi. Et à rester là, ce n'est pas suffisant. il est possible de créer, d'écrire quelque chose autour de ça. Donc l'idée m'est venue à travers ça, à travers ces éléments. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, ouais, il y a une possibilité de d'écrire ou de produire quelque chose autour de ces vies des vies qui traversent des périodes vraiment difficiles sous les yeux de pratiquement tout le monde, parce que on s'y habitue, on accepte, c'est devenu une réalité. Nous pouvons dire que normalement ça devrait choquer, les gens devraient se dire non, mais c'est pas possible. Ok, on peut pas leur donner à chacun, disons, un logement, c'est pas possible. Ok, mais on peut les réunir dans un gymnase ou dans un endroit, peu importe, des lieux de camp, je sais pas, mais pas dehors.
Donc vous, l'écriture de ce roman, il correspond à ce que décrit Afid, c'est-à-dire le fait d'observer une situation qui ne vous paraissait pas normale humainement, une situation qui n'était pas digne, et c'est cette situation-là politique,
ouais, tout à
qui
fait.
Vous a dit bon bah je vais écrire.
Ouais, tout à fait, parce que c'est pas ce Gramsci qui le dit en fait, très brillamment, il le dit, c'est qu'en fait le véritable problème, c'est l'indifférence. Et l'indifférence commence à partir du moment, à mon avis, à partir du moment où on refuse d'aborder la question, d'en parler. C'est ça, c'est à ce niveau que le problème se devient, je sais pas, intraitable. Donc, l'idée m'est venue à travers ça, en observant, je me suis dit, mais il y a un véritable problème, parce qu'on ne parle pas de deux ou trois personnes, on parle de plusieurs personnes, et parfois des enfants. J'ai pas eu le courage de d'amener les enfants dans cet endroit parce que je me suis dit que ça allait être vraiment très difficile à aborder.
Vous parlez d'un endroit particulier que vous appelez le tunnel.
Le tunnel, oui.
Dans votre roman. Et donc, au début, pour préciser la structure de votre roman, en fait, c'est un homme qui prend la parole pour raconter l'histoire d'un ami qui est mort. Votre narrateur dit « J'ai décidé, moi, l'inconnu venu de loin, l'inculte, l'exilé, sans diplôme, le non-désiré. Tout le monde parle de moi contre moi, parfois pour moi, mais jamais mais en ma présence. Écrire un roman comme celui-ci, Amadou Barry, ce serait écrire en la présence des personnes exilées dont vous parlez ?
Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, parce que c'est ce qu'on voit tous les jours, tout le temps, que ce soit dans les débats politiques ou les colloques, peu importe. Quand la question est abordée, c'est d'office, sans les personnes concernées. Mmh. Maintenant, que ce soit les personnes qui ont fait un parcours, qui ont une certaine place, qui ont, bon, je dirais pas expérience, parce que c'est une expérience de vie, mais bon, personne n'aurait souhaité avoir cette expérience, y compris les personnes qui l'ont vécue. Mais quand on en parle, c'est sans les personnes qui sont véritablement, sans les véritables concernés. Donc, je me suis dit, OK, le narrateur va essayer de parler, pas au nom d'eux, mais il va en quelque sorte aborder la question. Cette fois-ci, en essayant d'exclure tout ce qui est débat politique, tout ce qui est discours autour, disons, du traitement des dossiers et tout. Non. Donner, disons, une version qui est propre à ces hommes et à ces femmes qui vivent dans un endroit où ils sont en quelque sorte dans une prison.
En effet, vous abordez assez peu la question politique, mais vous abordez beaucoup cet endroit comme un endroit de vie, ce tunnel. Est-ce que vous pouvez le décrire à Amadou Barry, l'endroit où se rencontrent Dramé et Fiodé? C'est vraiment l'endroit de la naissance de leur amitié, mais aussi l'endroit de leur difficulté de vivre.
Le décrire. Alors, je dirais tout simplement, c'est un endroit où ils se sont retrouvés, et des hommes, des femmes se sont retrouvés et se retrouvent bloqués. Parce qu'en fait, c'est leur quotidien. À chaque nuit, ils se disent que demain, ils ne seront pas là. Et ça se conçoit parce que c'est un tunnel de passage. C'est un tunnel piéton, donc ils ne devraient pas normalement être là. On peut les évacuer à tout moment. Donc c'est comme si c'était une grande cellule, un fossé qui est là, et des hommes et des femmes s'y retrouvent, et surtout se retrouvent bloqués. Donc c'est pourquoi j'ai laissé au lecteur la possibilité d'imaginer cet endroit, de se dire que mais en fait c'est une sorte de cellule, une vaste prison où des gens sont coincés parce qu'ils n'ont pas le choix, et ils se disent que bon, c'est jusqu'à quand. Donc c'est un peu ça le tunnel, c'est vraiment un endroit particulier.
Oui, d'ailleurs, ce mot tunnel, on peut l'entendre comme à la fois les véritables tunnels qu'on peut voir dans les grandes villes ou dans les périphéries des grandes villes où véritablement s'installent, si on peut utiliser ce verbe-là, des personnes en exil sous des tentes et vivent sous des tunnels. Mais c'est aussi le tunnel, c'est-à-dire un espèce de temps sans fin où on a l'impression que la condition de précarité ne va jamais terminer à Madou Barry. Ouais. Pour ce qui est de votre roman Zied Bakir, La Naturalisation, comment est-ce que votre personnage, Ilyas, vous permet d'aborder la question de l'exil? On a l'impression, au début, dans les premières pages, qu'on va rigoler avec lui et que ça va être un roman dans le ton, dans la légèreté de la vie, parce qu'il est malin, cet Ilyas. Au final, ce ne sera pas que ça. Comment est-ce qu'arrive la question de l'exil dans ce texte-là ?
Alors, je considère que c'est quand même un roman comique. Hein.
Je vous confirme.
Enfin, j'espère.
Mais pas que ça, on est d'accord ?
Non, il n'y a pas que ça, puisque, évidemment, c'est le comique du tragique. Donc, voilà. C'est une façon d'aborder des thèmes qui sont plutôt graves, avec un ton plutôt léger. Donc, c'est une manière d'écrire. Et puis, tout ça s'inscrit, comme vous dites, donc, dans l'exil. Mais c'est un exil géographique, d'accord, mais pour moi, c'est secondaire, cette question de l'exil, en fait, puisqu'il s'agit d'un individu qui n'a pas choisi son lieu de naissance et qui se rend compte qu'il peut choisir son lieu de vie. Et donc, il va vers le lieu de vie qu'il s'est choisi lui-même. Donc, en tant qu'individu, c'est une démarche tout à fait individuelle. Effectivement, c'est une démarche qui... c'est un parcours du combattant, si on peut dire. C'est pas évident, c'est pas facile. Et donc il faut s'armer d'humour, de littérature et de patience.
La thématique de la naissance et du non-choix de cette naissance, elle revient à plusieurs reprises dans votre roman. On va écouter un extrait de La Naturalisation qui zoome précisément sur le moment et sur le lieu de la naissance.
Ma tête est tombée par un jour froid, à l'aube de l'année orwellienne, encore une bizarrerie. En français, une tête qui tombe, c'est un homme qui meurt. En arabe, quand sa tête tombe, l'homme naît. C'est que les femmes de Bédouins accouchent debout et toute naissance est une chute fatale. Donc, le jour où ma tête a dégringolé, vous devinez d'où, la journaliste belge Christine Ockrent, dite le frigo du 20h, annonçait au journal télévisé d'Antenne 2 État d'urgence et couvre-feu général en Tunisie. Les émeutes déclenchées dans le sud ont gagné la capitale. Il y aurait au moins une vingtaine de morts. La colère des gueux était montée jusqu'au nez des nantis. Leur police avait répliqué par une pluie de balles réelles. Les morts n'ont plus faim. Les Tunisiens ont cette expression de cartouche vivante pour dire « balles réelles », alors qu'elles sont mortelles, les cartouches. Je ne sais pas d'où vient cette bizarrerie. Le fait est que Bourguiba, lui, était vivant comme une cartouche entêtée et il venait de doubler le prix du pain et de la semoule sous la pression du ventre monétaire international. Les Yankees, du haut de leur pyramide en papier, nous avaient à l'œil. Mais ce que Christine Ockrent avait omis de mentionner dans son JT ce soir-là, c'est qu'un homme est rentré chez lui, le visage barbouillé de sang. « C'est un garçon », lui dit sa belle-mère. « Ils ont tiré sur nous », balbutie l'homme incrédule, une main appuyée sur son œil brouillé. Ce jour-là, donc, mon père perdit un œil et gagna un fils. Deux jours plus tard, quand le nombre de morts franchit la barre des 150 000, puisque chacun de ses va-nu-pieds en valait 1 000, Bourguiba, père de la nation et blagueur suprême, commit à la télévision nationale un discours apaisant. Toutes les augmentations sont annulées, tournons la page et qu'Allah bénisse le peuple tunisien, déclara-t-il en claquant du dentier.
Un extrait de votre livre « La naturalisation », Zied Bakir. Vous dites finalement la question de l'exil, elle est assez Elle n'est pas centrale dans l'écriture de ce livre, mais ce que vous faites en permanence dans ce livre-là, c'est des allers-retours entre l'endroit que se choisit votre narrateur et l'endroit d'où il vient. En permanence, il y a des comparaisons entre l'histoire de sa naissance, l'histoire politique de son pays et son présent en France, qui n'est pas si facile, qui n'est pas reluisant, mais qui prend avec beaucoup de dérision. D'une certaine manière, c'est aussi une façon de raconter la Tunisie avec humour et avec le regard d'une personne exilée.
C'est un peu ça, oui. Je pense que j'ai appliqué ce fameux proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens ». J'aime bien le contraire, moi aussi, de ce proverbe. Si tu ne sais pas d'où tu viens, n'oublie pas où tu vas. Ça, c'est très important aussi. Et donc, effectivement, il y a cet aller-retour entre donc le pays d'origine du personnage et sa vie en France. Donc, voilà, c'est un peu... C'est des flashbacks, comme on dit. Et du coup, ce qui m'intéressait aussi, je pense que c'est de mettre la petite histoire dans la grande.
Dès le départ, c'est-à-dire que la naissance de ce petit garçon rencontre la vie plus ou moins romancée d'un bourguiba qui lui aussi a des velléités parisiennes et littéraires.
Oui, tout à fait. Donc il y a un bout d'histoire. C'est pas un roman historique, mais ça commence comme un roman historique, hein, j'ai l'impression. Donc il y a ce parallèle entre Bourguiba vieillissant et Bourguiba jeune homme, donc étudiant à la Sorbonne, n'est-ce pas, et puis mon personnage qui n'est personne, mais c'est quand même un personnage, un citoyen donc du pays fondé par Bourguiba, donc qui est circoncis la veille de la destitution de Bourguiba. Donc il y a une fin et un commencement, et puis ce personnage aussi devenu francophile et désireux de partir ailleurs, de vivre dans un pays libre, en fait, c'est ça qu'il voulait. Et donc, il se retrouve lui aussi comme Bourguiba, donc à la Sorbonne. Sauf que, bon, ils n'ont pas le même destin, évidemment.
On entendait tout à l'heure Amadou Barry dire que la naissance de son désir d'écrire ce roman Journal d'un exilé était une naissance, avant qu'elle soit littéraire, assez politique, de ne pas laisser sans histoire, sans récit, des hommes et des femmes qui vivent une condition à ses yeux inacceptable. De quoi est né votre désir d'écriture à vous, Ziad Bakir?
J'avoue que je n'ai pas d'engagement spécial. Je ne prétends pas être un auteur engagé, enfin je n'écris pas pour ça, mais on peut toujours, par la suite, on peut trouver quelque chose quand même, puisque bon,
enfin, personne n'est obligé.
Je n'ai pas écrit pour rien. Oui, bien entendu, bien sûr. Mais l'intention au début, c'est de faire de l'art, en fait, avec les mots, quoi. La langue, c'est comme un instrument de musique, et puis après, on essaye de composer une espèce de symphonie que je pourrais qualifier d'humoresque au sens musical.
Comment, justement, puisque vous parlez de la place de l'humour, et puis tout à l'heure, quand Mathilde Wagman lisait un extrait de votre livre, La Naturalisation, vous avez conclu la lecture en disant « Ah, c'est vraiment pas sympa pour Bourguiba ». Enfin, on sent qu'il y a une façon d'ironiser en permanence sur des choses très difficiles. Ça a toujours été le cas dans l'écriture de ce roman-là, l'idée qu'il fallait rire de tout ça?
Il faut rire de tout, hein. Voilà, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, hein. Moi, voilà, ça m'avait marqué cette phrase de Beaumarchais, du Figaro, de Beaumarchais. Donc c'est un peu ma façon d'écrire, et puis peut-être une façon de vivre aussi. Enfin, il y a un peu de politesse du désespoir, comme on dit.
On va écouter l'archive d'un auteur que vous avez tout à l'heure cité, Amadou Barry. C'est Thiermo Monenembo. Il est au micro d'Arnaud Laporte en 2022 et il parle de l'écriture comme un moyen de supporter l'insupportable.
L'écriture, c'est un peu l'oxygène. Le besoin d'écrire n'est pas un besoin social, c'est un besoin physiologique. J'avais besoin d'écrire parce que c'est cela qui me permettait justement de supporter la vie, de supporter l'exil, de supporter le monde tel qu'il est. Je pense que je me suis rendu compte au fil de l'écriture que quand on met des mots sur les douleurs, sur les plaies, elles deviennent supportables. L'écriture a une fonction thérapeutique. Je dois continuer. Je pense que c'est cela précisément qui m'a permis de survivre, de supporter beaucoup de choses que je considérais comme insupportables.
La voix du romancier Thiermo Monenembo en 2022. Au milieu de votre roman, Zied Baki, on a accès à des notes de votre personnage qui s'appelle Elias Baby. Il est dans un hôpital psychiatrique et ces notes vont être une forme aussi de trait d'union avec une femme et la question de l'écriture et de le fait de pouvoir se débarrasser de soi, comme il le dit, va lui permettre aussi d'aller vers les autres ou une autre en l'occurrence. Quand vous entendez la voix de Thiermo Monenembo supporter l'insupportable, ce serait un peu ça pour votre personnage ?
J'espère, oui. En tout cas, effectivement, il le dit très bien, la lecture a une vertu thérapeutique. Et d'autant plus que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et vous savez, dans l'hôpital psychiatrique, en réalité, c'est une pépinière pleine d'artistes. Vous avez des peintres, des poètes, des écrivains, il y a de tout dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc ces gens-là, effectivement, ils essayent de supporter l'insupportable hein, à travers leur activités artistiques, leurs passions, parfois. Et puis ça leur permet de se reconnecter au monde. Hein. Ça permet aux autres de venir vers eux, puisque mon personnage, il finit par rencontrer la psychiatre de l'hôpital, mais c'est elle qui vient vers lui parce qu'elle elle lit ses notes, en fait. Et puis elle se dit, tiens, bon, il est pas si bête que ça. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui nous relie, effectivement, puisque elle-même, donc, comme la plupart des gens en France, est passionné de littérature, d'écriture et de lecture. Donc c'est vraiment quelque chose qui réunit les gens, hein, donc qu'ils soient d'horizons très très différents, comme un maghrébin patient d'un hôpital psychiatrique et une psychiatre d'origine bourgeoise, et qui finissent par se retrouver donc sous le même toit hein, grâce à leur passion commune, on va dire, à l'écriture.
Est-ce que vous vous diriez, comme votre personnage, que écrire, ça sert à se débarrasser de soi ?
J'ai trouvé ça dans un livre de Nabokov, son premier livre, dans une espèce de préface, où il dit en gros que le jeune auteur, quand il parle de lui dans un premier roman, c'est plus dans un désir de se débarrasser de soi, avant de passer à autre chose.
Et vous, c'est votre deuxième roman ?
Moi, c'est mon troisième, et donc je ne me suis toujours pas débarrassé de moi, c'est dire que bon, la chose est difficile.
On entendait dans cette archive Thiermo Monenembo, Amadou Barry, parler donc de supporter l'insupportable grâce à l'écriture. Vous aussi, il est question d'écrire, puisqu'on l'apprend à la fin, la décision d'écrire l'histoire de son ami est prise par ce narrateur comme une mission. Il n'était pas forcément destiné à l'écriture et il se lance pour honorer la mémoire de son ami fidèle qui a disparu. Ce serait de ce côté-là que se situerait le supporter l'insupportable ?
Tout à fait, ouais. C'est vachement intéressant et je trouve cette analyse très profonde parce que ça revient sans cesse. Je me souviens plus de l'auteur qui l'a dit, mais il y a un autre écrivain ou poète qui disait que une œuvre n'est valable que quand elle vient d'une nécessité, quelque chose comme ça. Je le paraphrase, mais en tout cas, il faut que ça soit nécessaire. Donc, en écrivant ce roman, j'ai beaucoup pensé à l'ouvrage de Steinbeck, Les raisins de la colère. À mon avis, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait cette nécessité. Et il est évident que l'écriture s'impose à l'écrivain. À partir du moment où elle s'impose, je pense qu'on n'a plus trop le choix. Soit on aboutit dans le projet ou pas, mais écrire devient une forme d'obligation. C'est comme si quelque chose bout en nous, et il faut vraiment que ça sorte.
Et c'était le cas pour vous ?
Ouais, je pense vraiment, ouais. C'est venu comme ça, et j'ai essayé d'aller sous cet angle, et surtout donner la possibilité à des personnages de se mouvoir dans un endroit qui est normalement très fermé. Mmh. Mais j'ai laissé la possibilité à ces personnages d'évoluer tout en essayant d'exclure complètement le champ politique.
Pas tout à fait. Je voudrais qu'on écoute un extrait pour terminer cette conversation de Journal d'un exilé. Il me semble que la question politique y est très présente.
Rappelez-vous, j'ai décidé de coucher sur papier toute cette histoire pour Faudier, qui aurait dû le faire à ma place. Sa disparition m'oblige, donc au diable ce capital culturel dont il ne cessait de me parler et qui contraint chacun à rester dans son couloir, les surdiplômés s'occupant de la poésie, de la musique classique et de la littérature, squattant les postes juteux. ceux qui héritent du capital culturel deviennent écrivains, penseurs, critiques. Par le plus grand des hasards, les bourgeois sont surreprésentés dans le monde de l'art et des idées, et on ment à ceux qui en sont exclus quand on leur dit « le droit à la parole est universel ». Les salauds, les voilà qui parlent de la vie, de l'exil, de la mort, de l'art, de tout. À la télé, à la radio, ils sont reçus partout comme des rois. Ah, les beaux plateaux télé. Amis des lettres et des arts, faites une exception à vos règles de bienséance. Une entorse à la pureté de votre langue, à l'éloquence, à tous ces machins censés nous éloigner de vous. Et puis, vos titres et grades, vos émissions, tous ces blablas à la con nous éloignent de l'art révélé. Une exception, merde, une toute petite exception. À ce jour, ça n'a jamais tué personne.
Un extrait de votre livre « Journal d'un exilé » Amadou Barry. Il me semble que là, c'est clairement politique, non ?
Alors, je précise.
C'est un rapport de classe en bonne et due forme.
Tout à fait, oui.
Il est question de politique au plus haut degré.
Vous avez bien raison, c'est vrai, à ce niveau. Mais quand je parle de politique, je parle plutôt de la politique migratoire.
Internationale.
Les différents États, vous voyez, les discours politiques et tout, je me suis dit.
Mais
non.
Savoir qui parle, qui a le droit de parler, ça, c'est très politique.
Oui, mais sous un autre angle, alors, disons. Parce que moi, je faisais plutôt allusion à ces discours autour de l'immigration et tout. Je me dis non, pour une fois, je mets ça de côté. Il y en a d'autres qui en ont parlé, sans doute très bien. Mais là, on va laisser la possibilité à ces personnages de se débrouiller eux-mêmes. Mm. Donc, on les laisse évoluer.
Et de vivre beaucoup de choses, parce qu'il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de désir. D'ailleurs, dans votre livre aussi, Ziad Bakir, il y a la question de la sexualité qui est très présente. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de trahison, il y a des histoires d'absence, etc. Enfin, vos personnages ne vivent pas que l'exil en toutes lettres. Et c'est leur vie qui est racontée dans votre roman. Pourquoi est-ce que le passage qui vient d'être lu par Mathilde Wagman est éminemment politique, pourtant, Amadou Barry ?
Alors, bon... Je vais essayer de parler au nom de mon personnage. J'espère qu'il ne va pas me poursuivre en justice. Parce que tout simplement, le narrateur s'est dit que c'est une vérité. Qu'on le dise ou pas, c'est une vérité. Le capital culturel, ça compte énormément. Donc, il suffit de voir un peu le milieu culturel et tout. Si on a des parents qui ont ce capital, ce fameux capital, il est beaucoup plus facile pour nous d'y accéder et surtout de produire. Si on veut devenir poète, écrivain, critique, ça aide énormément. Et si on ne l'a pas, c'est comme si c'était une barrière. Et l'idée m'est venue de coucher ces éléments sur papier et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Sinon, c'est vrai, on essaye, disons, d'y remédier, il y a des politiques et tout, mais je pense que tout part, très souvent, c'est dans, à la maison, l'entourage et tout, quand on n'a pas quelqu'un qui nous parle d'un ouvrage très tôt, quand dans notre environnement immédiat, on parle pas de théâtre et d'ouvrage et tout, je pense qu'on perd beaucoup. Et une fois qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de retard par rapport à ceux qui ont eu cette chance, très souvent, c'est trop tard.
D'ailleurs, ça fait partie des conversations qu'ont ces deux personnages, Dramé et Fiodé, puisqu'il lui parle beaucoup de sociologie politique, il lui parle beaucoup de différences de classe, il lui parle beaucoup de capital culturel. C'est-à-dire qu'ils ont des discussions finalement très politiques, tous les deux.
Ouais. Et c'est... Je voulais que... qui ça ressorte, parce que quand on parle des migrants, comme on en parle très souvent dans les médias, c'est très souvent des gens qui n'ont qu'un seul besoin, surtout des besoins matériels, des besoins où, bon, avoir ou quoi manger, ou dormir et tout, mais qui n'ont pas une sorte de conscience politique, et qui n'ont pas à dire sur...
Et des profondeurs dans leurs échanges,
effectivement.
Donc, la pluralité des sujets possibles.
C'est ça. Donc, je me suis dit, ok, je vais aller sous cet angle. Et je verrai qu'est-ce que ça va donner. Et il me semble que c'était plutôt intéressant parce que ça donne une autre vision des exilés. Et certains, sans doute, des lecteurs se diront que bon, oui, il est évident qu'on peut écouter des exilés parler de ces thèmes parce que c'est pas uniquement, il ne faut pas les écouter uniquement sur leurs mots. M-A-U-X, il faut aller au-delà. il faut aller au-delà et chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme élément à proposer par rapport à tous les thèmes qui se posent.
Ce que permettent vos deux romans, le Book Club continue.
Merci. France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, on vous retrouve, Nicole Vulzer. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Votre rôle, c'est d'éclairer pour nous l'aspect économique du monde des livres. Et là, c'est une sacrée affaire. On va parler romance, un engouement sans fin.
Absolument. Pour une fois, je vais vous parler d'un genre littéraire qui dépasse les espoirs les plus fous des éditeurs, la new romance. La trame de l'histoire tient souvent sur un ticket de métro. Une jeune fille plutôt jolie, d'une naïveté confondante, tombe raide dingue amoureuse d'un homme qui s'avérera à la fois paranoïaque et violent. Des scènes épicées, parfois assez torrides, alternent avec des descriptions très fleurs bleues et le code reste immuable. Paradoxalement, l'histoire finit toujours bien. En plus érotique, ces romans s'inscrivent dans le plus pur style de la collection Harlequin qui émoustillait jadis les générations précédentes. Et ces ouvrages grand public qui s'adressent presque uniquement à des adolescentes et des jeunes femmes s'écoulent comme des petits pains. Ce marché quasi inexistant en 2021 a représenté 7,6 millions d'exemplaires vendus l'an dernier selon GFK. C'est colossal. Ce segment de marché qui se porte à merveille dans l'édition a d'ailleurs permis d'atténuer la baisse générale de la vente des livres enregistrés l'an dernier. Avec une particularité, on note une extrême concentration sur les 100 titres les plus populaires écrits par les Françaises C.S. Quill, Emma Green, Morgane Moncomble, l'Algérienne Sarah Rivers ou l'Américaine Colleen Hoover. Ces stars de la new romance vendent chaque nouveau titre entre 200 000 et 1 million d'exemplaires rien qu'en France.
Et alors, quelle est la maison d'édition qui est le plus en pointe dans la new romance en France ?
Le principal acteur de ce secteur, c'est Hugo Publishing, une maison d'édition qui a pris son essor en 2015 grâce au succès en France d'un best-seller américain, la saga After, une romance qu'Anna Todd affirmait avoir écrite sur son téléphone portable. Cette maison d'édition fait désormais partie du groupe Glénat depuis 4 ans. Arthur de Saint-Vincent, le directeur général délégué d'Hugo Publishing, nous expliquait récemment qu'il s'adressait désormais aux jeunes filles de 15 ans et non plus de 18 ans, en raison de l'effet conjugué de l'engouement pour la romance sur TikTok et de l'utilisation du pass culture. Hugo Publishing a mis au point une vraie machine de guerre dans le marketing en créant un festival New Romance qui réunit chaque année des milliers de fans et surtout, c'est là le cœur du sujet, une plateforme d'écriture Fixia, F-Y-C-T-I-A, qui compte plus de 200 000 adhérentes. Le principe, des apprenties écrivaines proposent des histoires et elles continuent d'écrire uniquement quand elles ont reçu suffisamment de likes par la communauté. Elles écrivent en quelque sorte à la demande, pour être sûres que le public sera là. Elles participent aussi massivement à des concours d'écriture et c'est précisément dans ce vivier qu'Hugo Publishing repère les textes les plus prometteurs, sélectionne ses autrices et les publie. Une trouvaille incroyablement efficace sur le plan financier. Cette maison d'édition a vu son chiffre d'affaires tripler entre 2020 et 2023 et sa rentabilité fait pâlir ses concurrents.
Ouais, c'est presque une starac des écrivains et des écrivaines. Vu les chiffres que vous citez, on imagine que ça suscite pas mal de convoitises chez tous les auditeurs. Les éditeurs, peut-être chez les auditeurs aussi.
Aussi. Alors, absolument Marie, tous veulent leur part du gâteau. L'autre gros acteur du marché n'est autre qu'Hachette Livre via sa filiale BMR. Mais comme des papillons de nuit attirés par la lumière, tous les autres éditeurs tentent leur chance dans la romance, comme Editis, qui a lancé la collection Chatterley, dans laquelle les autrices parlent de désir féminin, de sexualité et de sentiments amoureux. HarperCollins, qui détient la marque historique Harlequin, est forcément de la partie. Albin Michel a également lancé l'an dernier sa collection de romances pour adultes Nox. On voit maintenant même des éditeurs qui a priori sont à des années-lumière d'une telle littérature, comme Gallimard, avec sa collection Olympe, qui explore désormais à raison de 6 nouveaux titres par an, la romantésie, un mélange de romance et de fantaisie, qui se situe entre le surnaturel et le fantastique, ou encore Le Seuil, qui lui aussi a lancé son propre label de romance Verso. Glenn Tavenec, qui le dirige, nous a confié qu'écrire des scènes érotiques demande un vrai talent, qu'il ne reconnaît apparemment pas dans les manuscrits que les agents américains lui envoient. Difficile d'être aussi doué que Crébillon fils, qui avait porté très haut la littérature libertine au XVIIIe siècle, avec Les égarements du cœur et de l'esprit ou encore La nuit et le moment.
Et alors, si la new romance, par laquelle on a commencé, est plutôt légère, ce qu'on appelle la dark romance, elle, va piocher du côté des violences sexistes, des relations toxiques, de sadisme, de cruauté, c'est une autre ambiance.
Voilà, ces histoires d'hommes extrêmement violents, de femmes soumises et de syndrome de Stockholm, avec une proie mesmérisée par son bourreau, connaissent aussi des succès de librairie phénoménaux. À l'heure de MeToo, cela fait réfléchir. Les trois tomes de Captive de Sarah Rivers, publiés par BMR chez Hachette, ont franchi le cap du million d'exemplaires vendus en France. Contrairement à la littérature jeunesse, la dark romance, censée être lue à partir de 18 ans, échappe à la censure de la commission de surveillance et de contrôle. Manifestement, les lectrices sont plus jeunes, d'autant plus que les avertissements des éditeurs apposés sur ces ouvrages semblent bien plus attractifs qu'efficaces.
Souvent, c'est comme ça. On vous retrouve et on vous réécoute, Nicole Vulzer, dans la rubrique Économie du livre, franceculture.fr, à la page du Book Club. Ziad Bakir et Amadou Barry, le Book Club se termine toujours en musique. Nous proposons à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les livres. On va aller chercher de la musique dans le livre d'Amadou Barry, mais il y en a aussi dans le vôtre, Ziad Bakir. Vous lui donnez quoi comme place à la musique ? Il y a une évocation.
Là, je parlais tout à l'heure de la musicalité du verbe, mais j'ai oublié.
Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas trouvé.
Mais ça ne m'étonnerait pas de moi, puisque je mets toujours une petite référence cinématographique ou musicale dans mes livres.
Voilà, donc on n'a qu'à envoyer un jeu à nos auditeurs et auditrices de le retrouver. Oui, moi aussi je l'ai dans mes notes, mais je vais faire trop de bruit avec mes papiers. Donc on se termine, page musicale, Journal d'un exilé, un extrait. Fodi avait le regard triste. Il avait besoin de quelqu'un qui serait en mesure d'interpréter son rêve. Il voulait qu'on lui dise que celui-ci avait une autre signification. Qu'il montrait un survivant, un homme appelé à vivre de grandes choses, une longue et paisible vie. Je ne pouvais rien ajouter. L'interprétation des rêves n'est pas à la portée de tous. On raconte que l'entourage d'un pharaon avait échoué à déchiffrer son cauchemar dans lequel 7 vaches grasses étaient dévorées par 7 vaches maigres et 7 gras beaux épis mangés à leur tour par les épis maigres et brûlés par le vent. Pour la résolution d'énigmes, il a fallu l'intervention d'un prophète. Faudier ne parlait plus. Il avait la tête penchée, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Je me suis dit qu'il dérobait son regard pour que je ne remarque pas ses larmes. La chanson « Mariama » de Baba Maal inondait le restaurant. La voix pastorale du chanteur me ramenait chez moi. Elle réveillait les bons souvenirs endormis dans mon cœur. Après la chanson, Fodi a relevé la tête. Un sourire s'est dessiné sur son visage. On est parti sans dire au revoir. La chanson qui était évoquée dans votre livre, c'est laquelle, Ziad Bakir ?
You make me feel so you.
De ?
Frank Sinatra.
Et ouais. Merci beaucoup à vous d'avoir été là pour parler de votre livre La Naturalisation, paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup à Amadou Barry d'avoir été là pour parler de votre livre Journal d'un exilé, paru aux éditions Julia Rosson. Aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Louise Hoth, Cyril Marchand et Alexandra Laibegovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.